BFM Business présente Les Experts sans frontières. Mathieu Jolivet.
Et ils sont tous là autour de moi, nos experts sans frontières. Leur regard est ô combien précieux pour nous aider, nous, à sortir de notre prisme franco-français. Aujourd'hui, nous sommes avec Alberto Toscano, journaliste et politologue italien. Bonsoir, Alberto.
Buonasera.
Louise Corradini, argentine et correspondante en France du quotidien argentin La Nation.
Bonsoir.
Bienvenue. Hélène Kunz, américaine, spécialiste des États-Unis et professeure à l'INSEC Paris. Bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous. Et puis, en direct de la frontière polonaise en Ukraine, à Lviv, nous sommes avec Violetta Moscalou, qui est franco-ukrainienne. Elle participe à un événement tech, elle nous en parlera tout à l'heure, c'est l'IT Arena, mais elle est aussi et surtout présidente de Global Ukraine et professeure associée à l'Université de Lorraine. Bonsoir Violetta.
Bonsoir.
Bienvenue à tous. Donc ça a été un véritable coup de tonnerre, un véritable choc hier quand on a appris la condamnation de Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison. Écoutez l'ancien président de la République, il venait d'apprendre le verdict.
Ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris est d'une gravité extrême pour l'état de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice.
Alberto Toscano, cette décision judiciaire, est-ce qu'elle vous choque?
Si oui,
dans quel sens?
Il y a une partie de cette décision qui me choque. Alors, le premier aspect de la décision est la matière en tant que telle, la raison pour laquelle Nicolas Sarkozy a été condamné. Et là, j'en sais rien, je ne connais pas le dossier au point d'exprimer une opinion. Par contre, la chose qui me choque est l'exécution provisoire.
Ouais.
Parce que dans nos démocraties, un citoyen est coupable au dernier stade de l'itinéraire du jugement. Là, il est coupable. Et jusque-là, il y a la présomption d'innocence.
Si un Sarkozy italien était condamné, irait-il directement en prison? Est-ce qu'il pourrait y avoir aussi cet effet provisoire chez vous en Italie?
Un Sarkozy italien a existé, il s'appelait Silvio Berlusconi.
Il s'appelait Silvio Berlusconi.
La condamnation est devenue définitive après le troisième stade du jugement, c'est-à-dire la Cour de cassation. Jusque-là, le citoyen, que ce soit vous, moi, nous tous, a droit de présenter un recours en appel et avant le recours en appel, il n'est pas coupable dans le sens définitif et juridique du terme. Il a été condamné, en premier. Mais donc, l'exécution provisoire est, à mon sens, un problème pour un pays d'état de droit, pour un pays démocratique, oui.
Hélène Kunz, avec votre regard américain, est-ce que vous aussi, cette décision vous choque et ce caractère aussi d'exécution immédiate et provisoire, c'est quelque chose qui vous interpelle?
Alors, au vu des États-Unis, au vu de notre situation, avec un président actuel qui lui-même a subi des condamnations, c'est difficile de s'étonner, si vous voulez. On a même aux États-Unis pas mal de gouverneurs qui ont fait la prison, qui sont sortis, qui ont été réélus.
C'est ça. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, un ancien président condamné au pénal peut revenir au suffrage.
Oui, alors on ne l'a jamais vu encore. Mais pour nos gouverneurs, si. Vous pouvez demander aux Américains lambda, est-ce que votre gouverneur a fait la prison? Il y a une chance que oui, hein.
Ouais.
Et Donald Trump.
Là, je parlais de pénal, parce que Donald Trump, il a déjà été condamné au pénal.
Oui, tout à fait, mais le fait d'avoir été élu fait qu'il s'est échappé à une peine.
C'est quand même un système très particulier aux États-Unis, où c'est un pays où il y a en même temps des procès.
Oui.
À foison, et en même temps une machine démocratique qui est électorale à foison aussi. Les deux s'entremêlent et il n'y en a pas un qui va bloquer l'autre.
Ça, c'est vrai. Et en ce moment, vous savez, on a des nouveaux foyers de résistance face à une Donald Trump qui veut tester à chaque fois le système. Donc, tout d'un coup, les juges se trouvent dans des situations dans lesquelles ils ne se trouvaient pas auparavant. Il y a actuellement plus de 4000 procès à l'échelle fédérale, on en parlera sans doute tout à l'heure, hein, de la part des anciens salariés de l'État, par exemple. Donc, tout d'un coup, les tribunaux aux États-Unis sont pris d'assaut, car c'est là où, puisque l'exécutif ne marche pas très bien et puis le législatif ne marche plus
c'est
du tout.
Ces 4000 procès dont vous parlez, c'est un motif commun c'était...
Alors, il y a plusieurs types de motifs. Par exemple, il y a des personnes qui ont été licenciées par la fameuse doge de Elon Musk. Ça paraît
Musk,
vieux,
ouais.
Mais c'est d'il y a 6 mois. Et ils ont été pour beaucoup licenciés à tort ou pas du tout dans les règles de l'art et certainement pas conformes au texte. Donc, il y a beaucoup de challenges au niveau de la Constitution, au niveau des textes de loi, et dans le gouvernement Trump, ils ont à cœur de vouloir changer le système, et pour le changer, il faut démontrer dans les tribunaux que c'est plutôt eux qui ont raison.
Est-ce qu'il y a un débat aussi aux États-Unis assez passionnel autour de l'indépendance de la justice ? Parce que là, aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose qu'on entend, que vous entendez, vous, depuis hier après-midi,
oui.
Tous les partisans, et pas que, hein, de Nicolas Sarkozy, qui disent que là, on a un cas avéré de justice partisane et politique. Est-ce que cet émoi-là, vous le comprenez ou est-ce qu'il vous choque?
Alors, c'est pas ce point suprême aux États-Unis dans la mesure où beaucoup de nos juges sont élus. Donc, si vous voulez, ils se trouvent carrément sur la liste quand on se rend aux urnes. Donc, le fait qu'un juge peut avoir un côté partisan, ça nous choque pas peut-être à ce point. Ça devrait peut-être, mais en tout cas, pour beaucoup, on élit nos juges aux États-Unis. Donc, de ce point de vue, ils ne sont pas à ce point neutre.
Louisa Corradini, je rappelle, vous êtes correspondante argentine en France pour le quotidien La Nation, grand quotidien argentin. Vous, quel est votre regard sur cette condamnation choc de Nicolas Sarkozy? Et est-ce que ça fait un écho particulier avec ce qu'on a connu aussi en Argentine, hein, notamment Cristina Kirchner, qui, elle, je crois, a été condamnée à 6 ans de prison, je crois.
Oui, mais elle fait prison à la maison. Elle n'est pas allée
elle est
chez elle. Et
d'accord.
D'ailleurs, elle continue à faire son spectacle politique sans aucun problème depuis son balcon. C'est absolument extraordinaire. Tous les soirs, elle sort au balcon, elle parle à son public, elle répond.
C'est dingue, ça. D'accord. Il y a le Christina Show tous les soirs à 19h au balcon.
C'est vraiment extraordinaire, c'est un show. Mais d'un côté, je suis, et pour vous dire l'importance qu'ils ont donnée à la condamnation de M. Sarkozy, aujourd'hui, j'ai publié une page entière et demie du journal. C'est-à-dire qu'ils ont donné pratiquement, on a ouvert le journal avec ça, et mais mon article a occupé une page entière.
Et d'ailleurs, il y a une formulation qui m'a interpellé. Je ne sais pas si c'était votre article, mais je voyais sur la Nation en une, c'était tourné sous forme de question. Nicolas Sarkozy ira-t-il en prison après sa condamnation?
Parce que au début, immédiatement après qu'il a été condamné, on a publié un article d'agence en donnant l'information. Et ensuite, j'ai fait un long article d'analyse racontant toute l'histoire.
S'était passé à l'époque, le jour où Cristina Kirchner a été condamnée à 6 ans de prison? Est-ce que ça a provoqué...
C'est une première en Argentine.
Oui, ça a été historique, ça a provoqué une vive émotion aussi en Argentine,
Ce jour-là. Oui, parce que depuis 70 ans, ce pays est pratiquement contrôlé par le péronisme, par le parti de Mme Kirchner. Donc c'est vrai que ça a été un choc invraisemblable, mais d'un autre côté, les gens ont compris que pour une fois, la justice fonctionnait et que finalement, il y avait des juges qui étaient capables de prendre ces décisions-là. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Alberto vient de dire par rapport à la prison, à l'emprisonnement avant que le procès ne soit fini pour M. Sarkozy. Ouais. Mais d'un autre côté, moi je me dis que venant d'un continent, c'est pas que l'Argentine, venant d'un continent où la justice ne fonctionne jamais et elle est tellement, mais vraiment politisée, je trouve que c'est fantastique que la justice fonctionne dans un pays comme la France.
Bien sûr. Parce que surtout, je crois que chez vous, en Argentine, il y a un débat judiciaire autour du lawfare et de comment est-ce que, peuvent être instrumentalisés pour écarter les adversaires politiques.
Mais moi, ce qui me choque de l'attitude de M. Sarkozy, c'est cette victimisation, cette accusation de la justice. Lui, il est un ancien président de la République, il devrait vraiment ne pas utiliser cet argument-là. Le fait de... lui, il le dit de notre manière, je suis une victime, les gens me haïssent, la justice est politisée. En Argentine, c'est le lawfare. Chaque fois que quelqu'un est accusé de malfaiteur ou de quoi que ce soit, c'est vraiment...
On crie à la justice politique.
Exactement. La justice politisée. Et moi, je trouve que c'est vraiment un drame pour l'état des droits.
Hier, c'était le quotidien Il Corriere en Italie qui titrait en fait, qui reprenait cette citation de Nicolas Sarkozy à la sortie du tribunal, qui disait « Je dormirai en prison,
la tête haute,
mais je suis innocent ».
Et aujourd'hui, la Stampe a fait le titre sur la Bastille de Sarkozy. Mais au-delà de ça, je crois vraiment que nous devons faire l'effort de mettre de côté la personnalisation de ce sujet. Parce que on peut avoir les opinions qu'on veut de Nicolas Sarkozy, et moi je suis d'accord avec toi que l'attitude de victimisation de Nicolas Sarkozy n'a pas de sens. Mais venons au problème réel. Le problème réel est qu'après le premier degré de jugement, le citoyen a, à terme de constitution, le droit
tout à fait
de aller en appel. Or, tant qu'il n'y a pas l'appel qui a été la sentence, le verdict d'appel, le citoyen a le droit d'être considéré innocent. Or, il y a des cas exceptionnels. Mais introduire cette idée de cas exceptionnels, dont un pouvoir immense à la magistrature, qui peut devenir, dans le cas spécifique et dans d'autres cas analogues, évidemment, c'est un discours difficile à faire, parce que alors on pense à Marine Le Pen, mais mettons de côté les exemples qu'on a. Ouais. On ne peut pas créer des précédents comme quoi la magistrature a le droit, sur la base d'un procès de premier degré, de décider la politique nationale de la France. C'est des précédents sur lesquels il faut réfléchir.
Il y a eu, je crois, en Italie aussi, une réforme, une révision constitutionnelle l'été dernier, assez importante.
Il y aura un référendum sur ça le mois de mars.
Voilà, avec l'idée de mettre une muraille de Chine entre les magistrats et les juges, qui aujourd'hui ont une trajectoire de carrière assez commune, et ce qui peut alimenter parfois le soupçon.
C'est l'offensive de la droite italienne. Tout ce discours se mêle à des situations et problèmes politiques, et c'est difficile de parler en tant qu'observateur neutre de ce sujet. Oui. Giorgia Meloni fait une offensive contre la magistrature. Il y aura un référendum sur ça au mois de mars, et le peuple décidera.
Bien sûr. J'aimerais qu'on aille en Ukraine. On est à la frontière polonaise. À Lviv, retrouver Violeta Moskalou. Sur ce sujet, là, vous êtes assez loin de chez nous aujourd'hui, Violeta, mais moi, j'aimerais bien savoir, en Ukraine, dans un pays en temps de guerre, vu le caractère exceptionnel de la situation, est-ce que la justice s'adapte ?
Juste pour dire que la justice française est parfois le dernier recours pour les peuples dont les dirigeants ont pillé les richesses, par exemple des autocrates africains, russes ou arabes, ont acheté des châteaux en France, des meubles d'Antien, de l'autre parisien. Il faut comprendre que pour la jeunesse à l'étranger, voir la justice française poursuivre même des gens hyper puissants, c'est une preuve qu'il n'existe pas un état de droit.
C'est ça, c'est-à-dire que ça renvoie, vous voulez nous dire que ça renvoie quand même le signal que dans une grande puissance comme la France, il n'y a pas de sur-citoyens. Et que ça, c'est un signal démocratique très fort, vu d'Ukraine, c'est ça ?
Tout à fait. Ça nous donne une responsabilité particulière à la France. La justice n'a pas seulement un impact interne, mais elle rayonne à l'international. Et pour avoir travaillé beaucoup aussi en Afrique, au Sahel, en Haïti, en fait, un peu à l'étranger. On regarde la France aussi avec beaucoup d'attentes sur notamment le cas des kleptocrates qui ont pillé leur richesse et se cachent en France ou en Europe. Nous, de l'Ukraine aussi, par rapport aux droits russes gelés en France et en Europe aussi. On attend en fait hein, cette justice ultime hein, et donc la France a une responsabilité extraordinaire.
On va revenir dans quelques instants avec vous. On a une liaison un tout petit peu compliquée, mais c'est intéressant ce que vous nous disiez, la Violetta Moscalou, Hélène Kuhn, sur finalement ce signal d'état de droit très fort et démocratique qui est renvoyé aussi loin de chez nous. Violetta nous disait, elle a vécu longtemps, notamment dans des pays en Afrique, et ça, ce sont des signaux importants.
C'est important de ne pas avoir une justice à deux vitesses, et nous souffrons actuellement aux États-Unis, car notre Cour suprême a plus particulièrement pris parti pour l'institution, enfin l'exécutif, en imaginant que Trump reviendrait au pouvoir, et il lui a donné des pleins pouvoirs, qui a carrément dit quelque chose qui est en contradiction avec la Constitution, c'est-à-dire que pas de justice à deux vitesses, sauf pour l'exécutif.
On a le sentiment parfois ici que aux États-Unis, Donald Trump est plus fort que les juges.
Ah ben, ils tiennent tout de même les juges hein, dans son camp, en tout cas. Et nous sommes sur une situation complètement inédite aux États-Unis. Ce n'est plus un problème gauche-droite, démocrate-républicain. Le phénomène MAGA et le phénomène de la personnalité très singulière de Trump fait que il a réussi à survivre à toutes les tentatives de justice contre lui, admettant qu'ils étaient introduits en bonne foi, à tel point qu'il a pris la photo qu'il a été prise quand il a dû se rendre pour être entendu par un juge dans la Géorgie. C'était finalement cette photo-là qu'il a utilisée sur tous ses goodies, il l'a utilisée dans toutes ses rallies, vous voyez, il s'en est servi. Donc, il a réussi à retourner ça à son avantage. Mais c'est très singulier, je pense, pour la personne et la personnalité de Donald Trump, qui de toute façon, avant même qu'il ne soit président, a connu des procès depuis qu'il est jeune homme. Il a connu lui-même des centaines de procès sans condamnation.
Allez, on va marquer une courte pause et on revient tout de suite avec nos experts sans frontières. On verra notamment en Ukraine comment est-ce qu'on continue à vivre au quotidien, à faire tourner la machine économique. Et puis on verra aussi comment les tensions sont en train de monter assez dangereusement à l'est de l'Europe. A tout de suite.
Présente les experts sans frontières. Mathieu Jolivet.
Bienvenue si vous nous retrouvez dans les Experts sans frontières. Aujourd'hui, ils nous viennent d'Argentine, des États-Unis, d'Italie, d'Ukraine. Leur regard est important pour nous aider à prendre un petit peu plus de recul sur l'actualité. On file tout de suite en Ukraine. On n'est pas loin de la frontière polonaise. On retrouve Violetta Moscalou. Donc, elle n'est pas porte de Versailles, mais à Lviv, en Ukraine, où se tient un gros salon tech où il y a plus de 6000 participants. Violetta, vous y êtes en tant que patronne franco-ukrainienne d'une fintech qui s'appelle Vitka. Racontez-nous déjà sur place en ce moment en Ukraine. Qu'est-ce qu'on y fait et quelle est l'ambiance?
Écoutez, c'est extraordinaire. Je suis arrivée hier et j'étais vraiment touchée et bluffée par la gentillesse, par la bienveillance, par les sourires des gens dans les rues. C'est vrai que de loin, quand on entend tout le temps parler des bombardements et des morts et des victimes et tout, on voit les choses à travers ce filtre, en fait, hein, de l'horreur de la guerre. Mais c'est impressionnant de voir comment les Ukrainiens, ils arrivent à combiner, en fait, hein, une vie normale avec des nuits parfois sans sommeil quand il y a des missiles qui sont lancés dans les directions donc de telle ou telle ville et qu'il y a des sirènes qui se mettent à hurler et qui sont obligés d'aller dans les abris en fait. Mais ils disent, mais le lendemain, dans tous les cas, fatigué ou pas fatigué, on a dormi, on n'a pas dormi, on se lève, on se douche, on va travailler, on va dans nos
occupations. Et malgré cela, il y a 6000 chefs d'entreprise et professionnels de la tech qui phosphorent en ce moment pendant 3 jours sur les innovations, développer le business, etc.
Tout à fait, tout à fait. C'est une des plus grosses expos tech dans l'Europe de l'Est, en fait, hein, qui a été lancée il y a 12 ans, ils ont dit les organisateurs aujourd'hui. Donc, IT Arena à Lviv, qui a été lancé par le Lviv IT Cluster, en fait, hein, donc qui regroupe 30 000 développeurs de la tech, spécialistes IT, plus de 300 entreprises membres. Il faut savoir qu'effectivement, donc, c'est une tech, expo tech de référence, et nous sommes aujourd'hui vendredi, samedi, dimanche, donc il y a une quarantaine de pays qui sont présents, avec aussi des focus maintenant très forts sur la défense tech, parce que l'Ukraine est
forcément,
malgré elle, en fait, un laboratoire un peu d'innovation dans la défense, mais il y a aussi fintech, il y a aussi education tech, en fait, health tech, donc il y a tout un tas de secteurs qui sont représentés, aussi l'administration publique qui fait beaucoup d'efforts depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Zelensky de digitaliser aussi beaucoup les services.
C'est ça, parce qu'on sait que on sait que l'Ukraine a une culture tech qui est très très forte et était déjà un laboratoire tech de référence en Europe bien avant la guerre en Ukraine. Louise Corradini, quand vous entendez ce témoignage depuis la frontière polonaise en Ukraine, où on voit une sorte de hub qui innove, 6000 participants, etc. C'est vrai que nous, au quotidien, comme le disait Violetta, on a le sentiment qu'ils sont tous sous les bombardements et que la machine, elle s'arrête. Mais là, on sent la résilience.
Écoutez, moi, je suis l'Ukraine depuis le début. Je suis allée plusieurs fois pour mon journal en Ukraine et je suis de plus en plus admirative de la résilience, comme vous dites, de ce peuple. C'est vraiment incroyable. Et c'est vrai aussi que, pas que la résilience, ils ont cette volonté d'aller de l'avant, d'inventer, d'imaginer, de trouver des solutions. Parce que quand vous voyez, par exemple, l'industrie des drones, c'est incroyable les choses qu'ils font avec deux fois rien. Ils sont capables de produire des drones qui sont des exemples à une Union européenne.
À tel point qu'il y a un label testé en Ukraine qui est devenu un label de référence dans le monde entier.
Exactement.
Ah oui. Mais c'est là où on peut commencer à se dire, Hélène Kunz, que quelque part, c'est un peu cynique, mais quelque part, ce conflit actuel a un côté un peu catalyseur des entrepreneurs parce qu'il ne faut pas se laisser abattre sur place.
Ça, c'est clair, mais je pense que cette conférence est là depuis un certain temps. Et vous avez raison, là, pour le coup, on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle et c'est très inspirant. On peut réellement admirer cette dame et d'autant plus que parfois, il y a un déficit de présence féminine hein, dans la tech. Donc, elle est vraiment sur l'avenir, là. Ouais. Et peut-être, sans doute, sur l'avenir après conflit, on espère.
Violetta Moscalou, on vous retrouve donc depuis ce forum tech en Ukraine qui regroupe plus de 6000 participants. On disait que, de toute façon, l'Ukraine n'avait pas attendu la guerre pour être un pays de développeurs et d'entrepreneurs. Je crois que même avant la guerre, la tech pesait 5% du PIB en Ukraine. Là, vous la ressentez, là, en ce moment, cette effervescence, là-bas?
Oui, effectivement. En fait, l'Ukraine, je pense que déjà, ça remonte à la révolution Euromaïdan, en fait, en 2013-2014, quand les gens, les Ukrainiens à l'intérieur du pays et aussi les Ukrainiens sans frontières, les Global Ukrainians, en fait, la diaspora ukrainienne, ils étaient tous regroupés, focalisés sur le fait qu'il y a eu la guerre qui a commencé de facto avec l'annexion de la Crimée, en fait, tout ça. Et qu'on a commencé, nous, la communauté ukrainienne au niveau global, à travailler avec des outils technologiques, les travails à distance, en fait, visioconférence, on fait tout ça. Donc, je pense qu'il y a eu déjà, on n'a pas attendu le Covid pour se mettre sur ce mode de travail collaboratif pour essayer de regrouper capital intellectuel et capital financier. Et ça donne quelque chose, ça booste. Il y a beaucoup d'Ukrainiens qui travaillent, par exemple, dans les GAFAM, dans Silicon Valley, dans des grosses entreprises, les hubs, en fait, à Londres, en France, au Luxembourg, Israël, enfin, Émirats Arabes Unis, Singapour, aussi en Asie. Et donc, tout ça, ça fait qu'il y a une concentration aujourd'hui des cerveaux dans le monde entier qui sont focalisés sur comment aider l'Ukraine. Et sur la partie innovation, en fait, et tout. Et c'est pour ça que je pense que l'Ukraine, il faut qu'on regarde, nous, les Français, les Européens de l'Ouest, avec grande attention, parce qu'il y a les prémices du fait que des nouvelles formes institutionnelles vont émerger, nouvelles formes démocratiques, en fait, hein, des formes beaucoup plus distribuées, si je peux me permettre, avec la blockchain. blockchain, avec la finance décentralisée, on va franchir à mon avis le pas
et bien, et oui, la gouvernance décentralisée. Justement, sur la finance démocratisée, je crois qu'il y a Alberto Toscano qui est avec nous, qui est politologue et essayiste italien, qui veut vous poser une question.
Bonsoir, madame. Ma question est très simple. Est-ce que les Ukrainiens que vous avez rencontrés dans un milieu si spécialisé dans le secteur de l'économie et des technologies pensent que l'Ukraine va entrer dans l'Union européenne dans un délai raisonnable de temps?
Oui, je pense que les Ukrainiens, même ceux qui étaient avant, peut-être un peu plus proches de la Russie, parce qu'il y avait des familles combinées de ça aujourd'hui, ils ont tous compris que l'Ukraine ne peut pas rester sur un statut neutre, parce que la Russie ne le sera jamais tranquille, et que le seul avenir, en fait, pour l'Ukraine, c'est l'intégration européenne pour pouvoir contribuer de facto au renouveau, aux recettes, si je peux me permettre presque de dire, de modèle européen. Si ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine pose des questions quand même fondamentales pour même le à quoi va ressembler l'Union européenne dans 5 ans ou dans 10 ans. Et les Ukrainiens, ils ont compris qu'ils ont un rôle à jouer en fait, et qu'ils inspirent aussi par cette résilience, par cette volonté de montrer que le pouvoir des sans pouvoir, en fait, comme écrivait Václav Havel il y a une trentaine d'années, que finalement, ça, c'est pas des vaines paroles, et que malgré tous les paris géopolitiques qui t'ont donné, que Kiev devait tomber en 3 jours, le peuple ukrainien a montré que le peuple pèse en fait, face à des empires impérialistes comme ce qu'on voit en Russie.
Tout à fait. Et ce forum depuis lequel vous nous parlez, en Ukraine, ce forum tech, Violetta, il se passe à un moment, dans un contexte où Vladimir Poutine est en train d'accentuer la pression de manière très dangereuse sur l'OTAN. On voit tous les jours de plus en plus d'incursions de drones, des tensions qui montent aussi dangereusement en mer Baltique. Et puis, là-dessus, alors, on a assisté, j'étais assez sidéré, Hélène Kunz, lors de l'Assemblée générale de l'ONU, à Donald Trump, qui a fait une volte-face, mais spectaculaire sur l'Ukraine, qui du jour au lendemain encense Zelensky, ça devient son chouchou, et qui lui dit aux yeux du monde entier, vous allez récupérer tout votre territoire, même peut-être un peu plus.
Alors, c'était pas...
La Groenland, lui dans la Groenland.
Mais oui, alors, enfin, la résilience toujours, n'est-ce pas? Mais on est, ce qui est terrible, on rigole un peu, mais on a perdu énormément de temps. La position des États-Unis, c'était en faveur de l'Ukraine. Et puis, pour des raisons qui n'ont jamais été clairement expliquées, Donald Trump a changé, rechangé, re-rechangé. Donc, le problème, c'est que ça fragilise tout de même la diplomatie, ce dont on a besoin pour trouver des réelles solutions. Donc, il ne faut pas non plus qu'il prenne ça à la légère, qu'il montre aux yeux du monde que ce n'est pas un vrai sujet pour lui et qu'il a juste envie de s'en laver les mains. Ça, ce n'est pas bon non plus.
Oui, Louise Cardin.
N'empêche qu'en dépit de ces déclarations incendiaires que vous dites, en concret, il ne change absolument rien. Parce que l'aide américaine à l'Ukraine s'est arrêtée depuis qu'il a décidé qu'il voulait pas aider l'Ukraine. Et maintenant, ce sont les Européens qui payent pour les armes qui ensuite arrivent en Ukraine à travers l'OTAN. C'est-à-dire que les déclarations, c'est très bien, mais de toute manière, dans la pratique, ça ne change strictement rien. Oui. Moi, depuis le début, je crois que Trump dit ce qui lui vient
par la tête.
Et ça dépend de l'occasion. Et c'est vrai que il est en train d'organiser un désordre international épouvantable.
En même temps, il avait annoncé la couleur pendant sa campagne. C'est un désordre dont il avait annoncé la couleur.
Donc oui, tout à fait.
Voilà. Et il se passe ce qu'il avait annoncé. Mais j'aimerais bien savoir, Louise Corradini, puisque vous êtes la correspondante en France du quotidien La Nation, argentin. L'Argentine, c'est à un peu plus de 12 000 kilomètres de Kiev.
Oui.
Là-bas, quand on est argentin, comment est-ce qu'on regarde ce conflit? Je veux dire, est-ce que c'est un conflit qui paraît lointain? Est-ce que finalement on est plus ou on s'intéresse plus à des conflits plus régionaux, plus proches, comme en Amérique latine, au Venezuela?
Non, pas du tout. Non, vous savez, l'Argentine, la moitié des Argentins sont d'origine italienne, l'autre moitié sont d'origine espagnole. Ils sont très attachés à l'Europe. Donc, pour eux, c'est un conflit central. Ils ont compris, et évidemment, il faut faire un effort d'explication, ils ont compris qu'il s'agit de l'Europe, pas que de l'Ukraine. Et donc, ils suivent de très près ce qui se passe. Moi, j'écris tous les jours sur l'Ukraine, comme je vous disais. Je voyage très souvent en Ukraine depuis 2015. Même depuis Maïdan, j'y vais très...
Et il va se passer là un événement en Europe de l'Est assez important, même c'est un tout petit territoire, mais qui peut changer la donne, c'est la Moldavie, parce qu'il y a des élections ce dimanche, et en fonction des élections, soit ça bascule côté pro-gouvernement actuel et c'est une accélération de la Moldavie vers l'Ouest, soit ça tombe de l'autre côté, le parti d'aujourd'hui perd. Et à ce moment-là, bah, la Moldavie devient du jour au lendemain un satellite de Poutine. Est-ce que Violeta Moscalou, ça c'est quelque chose qui est commenté, les élections en Moldavie, en Ukraine, là où vous êtes? Est-ce qu'on scrute ça de très près?
Oui, beaucoup, parce qu'en fait, pour l'Ukraine, un revirement de la Moldavie pro-russe serait très, très un élément qui fragiliserait les questions, notamment un lien avec les attaques possibles après à travers la Transnistrie. En fait, donc ça viendrait. Enfin, on craint en fait que ça renforce la position de Kremlin. Mais par contre, donc, on regarde avec grande attention comment ils organisent les élections, tout ce qui se passe, la présidente Maria Sandu, en fait, qui a averti que le Kremlin dépense des centaines de millions d'euros pour acheter les votes de Moldave. Et on a l'impression que ça va se jouer une fois de plus par le biais des votes des Moldaves de l'étranger, de la diaspora, qui sont très nombreux. Il y a 301 bureaux de vote à l'étranger sur 2274 en tout.
Vous avez raison d'en parler, et on va scruter aussi dans cette diaspora, enfin on va scruter aussi le vote des résidents moldaves qui sont en Transnistrie. Je crois qu'ils sont plus de 30 000, et alors là, Transnistrie, je crois que plus de 90% d'entre eux sont plutôt pro-russes. Merci beaucoup en tout cas, Violeta Moscalou, qui était avec nous en direct depuis l'Ukraine. On va marquer une courte pause avec nos experts sans frontières, et ensuite on va s'intéresser à Javier Milei en Argentine. On va voir si on n'arrive pas au bout de sa méthode Milei à la tronçonneuse. À tout de suite.
BFM Business présente Les Experts sans frontières. Mathieu Jolivet.
Bienvenue si vous nous retrouvez dans Les Experts sans frontières. Autour de moi, Alberto Toscano, journaliste politologue italien, Louise Corradini, correspondante en France du quotidien argentin La Nation, et Hélène Kunz, américaine spécialiste des États-Unis, professeure à l'INSEC Paris. Cette semaine, Javier Milei, le président argentin dont le pays est en train de traverser une tempête financière, le peso est attaqué, mais Donald Trump est venu voler à son secours. Écoutez Donald Trump.
Nous allons les aider, mais je ne pense pas qu'ils aient besoin d'un plan de sauvetage. À l'image de notre arrivée à la présidence, il a hérité d'un désastre, et ce qu'il a fait pour le réparer est bien. Scott Bessent travaille avec le pays pour qu'il puisse obtenir une bonne dette et tout ce dont ils ont besoin pour rendre à l'Argentine sa grandeur. C'est un honneur pour moi de soutenir le président et futur président de l'Argentine.
Voilà, Louise Corradini, on a besoin de vous, de votre regard argentin pour comprendre cette séquence.
Alors, cette séquence n'est pas comme on nous a dit une réunion bilatérale, c'était juste ce qu'on appelle en journalisme un photo op, c'est-à-dire 2 minutes avec les photographes pour le public.
Pour s'afficher.
Et voilà. Et ce papier blanc qui reçoit Milei, c'est donc la copie d'un tweet que le président Trump a publié sur son réseau social Truth veille, en disant que Milei est fantastique, formidable, ce qui représente
vraiment
une
humiliation. Et qu'il ouvre, je crois, une ligne de 20 milliards de dollars pour essayer de soutenir...
Ce qu'il dit, 20 milliards de dollars, un swap. C'est pas un prêt, mais bon, de toute manière, il faut... Et puis, il est mal renseigné, Trump, parce qu'il dit on va l'aider à être réélu. En fait, il s'agit pas de ça. Les élections du mois d'octobre, ce sont des élections législatives pour renouveler la Chambre. Mmh. Et Milei voudrait vraiment avoir plus de... parce qu'il a une minorité à la Chambre des députés, et donc il ne peut pas gouverner. Mais si vous me permettez, je voudrais résumer ce qui se passe en Argentine avec le miracle Milei. En deux années, celui qui disait que la personne ou le dirigeant qui va au FMI demander de l'argent est un escroc, a demandé 71 milliards de dollars en prêt des différents organismes internationaux, auxquels ils vont s'ajouter ces 20 milliards que les États-Unis vont prêter à Milei. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces 71 milliards? Rien de tout, parce que les services aux handicapés, aux retraités, aux malades de cancer sont tombés, se sont réduits de plus de 20%, c'est-à-dire que les gens, les familles...
La casse sociale est énorme.
La casse sociale est énorme.
Et en même temps, il y a une statistique qui est tombée hier soir du Bureau des statistiques et qui dit qu'il y a une chute observée du taux de pauvreté cette année de 50...
Parce
d'accord, donc c'est une stat qui est
erronée. Les mesures sont fausses, ouais. Parce que je vais vous dire juste pourquoi, une seule cause, il y en a plusieurs, mais une seule cause, est que le... Un quart de la population argentine, la plus pauvre, celle qui n'a absolument aucun service, qui n'arrive même pas à manger, ne sont pas comptées dans ces études-là. Donc, il y a un quart,
ça,
le 25%
pas en
de la population
là, c'est sûr que...
C'est-à-dire que...
Et comme ça, la méthodologie laisse à... Voilà, est totalement erronée. Hélène Kunz, en fait, ce qu'on voit Donald Trump avec Javier Milei, c'est un relais... Un relais trumpiste d'influence important pour lui aussi sur la zone Amérique latine.
Oui, d'où l'intérêt d'avoir un tweet publié sur une page A3. Donc c'est bien, tiens, je vous donne mon tweet. Alors, c'est l'ingérence américaine qui est extrêmement problématique et c'est terrible ce que vous décrivez, parce que ce que vous décrivez arrive chez nous, où les bureaux des statistiques, ça a subi des coupes des personnes qui savaient bien calculer les choses. On n'en veut plus de ces gens-là. On veut des gens qui donnent des statistiques qui vont bien pour le régime. Donc, on va avoir le même type de statistiques qui ne sont pas réelles. Mais c'est vrai que sur ces 20 milliards, alors c'est terrible hein, tout de même, parce que c'est une somme où, pendant que Elon Musk était à Doge en train de faire des coupes budgétaires parce qu'il fallait tailler, pour sauver les États-Unis.
Pour aller sur Mars.
Mais oui, si on s'en souvient, c'était à peine 6 mois. Finalement, c'était des petits millions qui sont partis par-ci, par-là. Et là, c'est purement idéologique. Voilà, c'est même pas diplomatique, c'est terrible.
Il nous reste très peu de temps. J'aimerais bien entendre Alberto Toscano aussi sur ce débat passionnel qui nous agite en France, alors que Sébastien Lecornu va bientôt abattre ses cartes pour dire quel niveau d'effort il demandera aux Français et comment il le répartira entre les Français. Il y a quand même un côté en France haro sur les riches. Écoutez le député debout de la Somme, François Ruffin, ex-LFI, qui demande à ce qu'on prive les droits civiques les plus riches qui ne joueraient pas le jeu. Écoutez-le.
Ceux qui menacent en permanence de fuir, de partir, oui, il faut des mesures contraignantes. Pourquoi pas une privation des droits civiques ? C'est le choix qu'ils font de ne pas appartenir à la communauté nationale. Mais je vous le redis...
L'idée de geler leurs avoirs ?
Geler leurs avoirs, tout à fait. Il faudra qu'il y ait des sanctions. Il y a des sanctions qui doivent être prises. Et je vous le redis, les États-Unis font quelque chose de très simple. Même quand les gens s'en vont, ils continuent de les taxer et ils continuent de les taxer à vie. Donc c'est une mesure simple qui peut être, à mon avis, assez consensuelle.
Alberto Toscano, comment est-ce que vous voyez...
Ils continuent de les taxer à vie s'ils ne renoncent pas à la nationalité américaine. Parce que sinon, ils ne peuvent pas les taxer à vie. Une fois qu'on a dit ça, on est devant un discours qui a deux aspects. Un aspect financier, économique, l'autre aspect idéologique. On voit, à mon sens, trop souvent, surtout dans une période comme l'actuelle en France, pleine d'incertitudes, la France aujourd'hui est condamnée à l'instabilité, jusqu'au moins aux élections présidentielles. Donc, il est inutile de faire du blabla.
Elle a besoin de symboles, en fait. On n'est plus dans la rationalité économique. Elle a besoin de symboles.
Et voilà l'idéologie, prendre le dessus sur l'économie. Et l'idéologie, c'est évidemment taxons les riches, punissons les riches. Qu'est-ce qu'ils proposaient ? Quelle était la proposition de leur
enlever ? Carrément, peut-être, alors je ne sais pas si c'est déchoir de enlever leurs droits civiques. Voilà. Leur enlever leurs droits civiques.
C'est-à-dire, cette surenchère est idéologique. Si on revient sur la planète de l'économie, à mon sens, il faut, pourquoi pas, et c'est logique, faire en sorte que toutes les couches de la population payent sur la base de leurs possibilités. Mais l'impôt qui est soutenu par la gauche est un impôt qui a un fort caractère idéologique et qui risque, sur le plan financier, si elle frappe les moyens de production, d'avoir des conséquences négatives sur l'élément fondamental qui est la croissance. L'Italie, la France, nos pays ont besoin d'augmenter la croissance.
D'ailleurs, en Italie, vous n'avez pas ce débat aussi passionnel sur les grandes fortunes, parce que là, on parle, le débat, il porte vraiment sur les plus riches.
Ni le débat, ni l'ISF. D'ailleurs, l'ISF existe, je crois, seulement en France, dans la version macroniste, et en Espagne, dans l'Union européenne. Corrigez-moi si je me trompe.
Il y a d'ailleurs une ruée, on observe ces dernières années, une ruée des plus grandes fortunes vers la capitale des grandes fortunes qu'est devenue Milan. On va terminer cette émission avec votre carte blanche. Ce sont des articles souvent locaux, des sujets qui vous ont interpellé dans vos pays respectifs. Louise Corradini, vous avez choisi un article de la Nation qui est directement lié à la politique de Javier Milei, justement.
Absolument, oui, parce qu'en Argentine, on l'a su hier, seulement les 10% des étudiants termine le secondaire dans les temps et selon les normes. Vous vous rendez compte, l'Argentine, qui était naguère le pays modèle, le pays exemplaire, les plus instruits, les plus cultivés d'Amérique latine, et maintenant, à peine le 10% des jeunes finissent l'école secondaire.
C'est incroyable. C'est-à-dire que là, on est dans un exemple de déclassement éducatif qui est abominable.
Et naturellement, ça a directement à voir avec les niveaux sociaux ou la classe sociale dans laquelle ces enfants vivent. C'est-à-dire que les secteurs les plus dépourvus...
C'est un impact aussi, contestataire. Est-ce que c'est une jeunesse qui se retrouve nos futurs?
Je crois qu'ils se rendent même pas compte de ça. Je veux dire, l'indigence est tellement grande et l'État est tellement absent dans un pays où l'école publique était l'un des piliers de la culture et des institutions de cette société. Ça a disparu complètement et ça, c'est un effet direct de la politique ultralibérale.
Rappelez-nous le taux de réussite au bac. Le taux de réussite
était mentionné. Le taux de réussite est 10%, vous vous rendez compte?
C'est abominable. Hélène Kunz, votre article choisi cette semaine, il est publié sur Substack, qui évoque les menaces d'un shutdown aux États-Unis.
Oui, alors on a une échéance dans une petite semaine aux États-Unis.
Ça c'est le marronnier, le shutdown là-bas aux États-Unis.
Oui, mais là pour le coup c'est peut-être plus sérieux.
C'est-à-dire
notre fin de l'année fiscale au niveau fédéral c'est le 30 septembre et le Congrès n'est pas là. Le chef de la Chambre dit ne venez surtout pas. Ne venez pas. Et il faut 60 voix là au Sénat pour que le budget passe. Et si vous voulez, quand même, les mécanismes d'entente ont été très cassés dans ces 6 premiers mois. Donc moi, je crains que le gouvernement fédéral américain s'arrête dès mercredi au petit matin. Pour un certain temps. Alors,
il y a un vrai risque pour vous.
Il y a un vrai risque. Alors, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le défaut de paiement sur les obligations. Ce n'est pas du tout ça. Mais c'est le budget de fonctionnement, si vous voulez. Et donc, ça va faire que il n'y aura plus d'école publique, il n'y aura plus de fonctionnement dans les services civiques. Et je pense que Bessette, justement, on l'a vu tout à l'heure, a à cœur de continuer de les licenciements secs ouais. des fonctionnaires.
Ils l'ont annoncé, je crois qu'ils l'ont annoncé, ça, ouais. l'intention.
Oui. Bien sûr. On va terminer ce tour de table avec vous, Alberto Toscano.
Je n'ai pas encore écrit un trois mots.
Mais c'est un article que vous allez bientôt écrire, je crois que c'est un hommage que vous voulez
oui,
rendre.
Oui, Léon Landini, décédé à 99 ans, a été un partisan résistant dans les formations communistes. C'est un fils d'immigrant italien. Et j'ai pensé et j'ai réfléchi à ça pour dire l'importance de l'immigration italienne en France. Et le dernier des poilus français décédé en 2008 et célébré en tant que dernier des poilus français était M. Lazare Ponticelli. Migrant italien en France. Le dernier des résistants français morts est un fils de migrants italiens. Et réfléchissons sur l'importance que cette migration italienne a eue dans l'histoire de France.
Vous savez quoi ? Vous allez nous envoyer, vous allez écrire un papier, je crois, là-dessus. Un papier hommage à ces résistants français et migrants italiens. Vous nous enverrez votre papier, bien sûr. On le relaiera dans les Experts sans frontières. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Alberto Toscano, journaliste, politologue italien. Luisa Corradini, Argentine, correspondante en France du quotidien argentin La Nation. Et Hélène Kunz, spécialiste des États-Unis, professeur à l'INSEC Paris. Les Experts sans frontières, c'est terminé. Je vous souhaite un très bon week-end à tous. Et vous retrouvez tout de suite Stéphane Nicolo pour son journal.
Les Experts sans frontières sur BFM Business.